Et à 7h, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est ce qui s'appelle un faux départ. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a remis hier sa démission à Emmanuel Macron, mais le chef de l'État l'a refusé, renouvelant toute sa confiance au ministre, critiqué par l'opposition depuis qu'il a annoncé sa candidature au municipal à Lyon en 2020. Analyse dans un instant.
À la une également, de nouvelles règles en matière d'immigration après le Brexit. C'est ce que la première ministre britannique a promis hier, avec la fin, une bonne fois pour toutes, de la libre circulation des citoyens européens au Royaume-Uni.
Des annonces attendues, mais Theresa May semble s'être précipitée pour les faire hier, alors que Boris Johnson, son ancien ministre et actuel rival au sein du Parti conservateur, doit prendre la parole aujourd'hui au Congrès des Tories à Birmingham. Nous serons au Royaume-Uni dans ce journal.
Et puis la question du jour après le drame de l'Indonésie. Catherine, comment se protéger des tsunamis? Nous serons en compagnie de Giovanni Occhipinti dans une dizaine de minutes. Il est physicien, chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris.
Mais tout d'abord, quand deux monuments se rencontrent, la Tour Eiffel paraît d'or cette nuit en hommage à Charles Aznavour, mort hier à l'âge de 94 ans, inlassable ambassadeur de la chanson française, pourtant moqué au début de sa carrière pour sa voix éraillée, décriée même pour ses paroles jugées trop crues.
Et puisque d'autres mains sur ton corps impudique sont venues prendre place, où mes doigts ont couru, et puisqu'un autre cœur donne au tien la réplique, et que tes joies se fondent aux joies d'un inconnu, je veux te dire adieu.
Je veux te dire adieu, l'une des chansons de Charles Aznavour censurée, là c'était dans les années 50. Charles Aznavour qui a fini par s'imposer au fil du temps comme un grand de la chanson française, 180 millions de disques vendus dans le monde entier. Charles Aznavour viscéralement attaché à ses racines arméniennes. Nikol Pachinian d'ailleurs, le premier ministre arménien, a déploré hier une perte énorme pour le monde entier, rendant hommage à un fils exceptionnel du peuple arménien. Deuil national dans tout le pays, et ce matin nous allons à Yerevan, la capitale arménienne, avec vous Claude Bruyot, bonjour.
Bonjour Catherine.
Des portraits géants de Charles Aznavour sont affichés dans toute la ville. L'heure était au recueillement hier soir, Claude.
Oui, mais une atmosphère étonnante quand même, faite de recueillement bien sûr, surtout en début de soirée d'ailleurs, avec ses fleurs, ses bougies par dizaines sur la place Charles Aznavour au cœur de Yerevan, mais aussi une ambiance pleine de vie aux terrasses des cafés où l'on diffusait évidemment des chansons de Charles Aznavour jusqu'à très tard dans la nuit. Et c'est là que nous avons rencontré Arthur Zavarian, président de l'association Lyon-Yerevan, qui était venu passer quelques jours de vacances sans se douter qu'il allait vivre avec l'annonce de la mort de Charles Aznavour dans la capitale de l'Arménie, une journée très particulière.
Très douloureuse dans la mesure où, je peux le dire, Charles Aznavour m'a toujours accompagné dans la difficulté. Et là, je retiens mes larmes. J'ai eu le plaisir de le rencontrer dans sa loge à Lyon deux fois et également à Valence lors des assises franco-arméniennes. C'était un homme très ouvert, très talentueux, très patient, toujours à l'écoute. Et proche du peuple, il faut le dire, elle était proche quand même du peuple et du quotidien du peuple, il faut le reconnaître. Et vraiment, on n'oubliera jamais son talent et sa gentillesse.
Charles Aznavour devait venir chanter à Yerevan d'ailleurs la semaine prochaine, invité par Emmanuel Macron au sommet de la francophonie. Aznavour tenait à venir régulièrement, Claude, dans le pays d'origine de ses parents à des moments clés.
Oui, c'est vrai. Si on remonte plus de 50 ans en arrière, la première visite de Charles Aznavour au début des années 60 en Arménie avait été organisée à l'occasion d'une tournée internationale du chanteur, qui est restée ensuite d'ailleurs très populaire en ex-URSS. Ensuite, il y a eu bien sûr son implication sur place après le terrible tremblement de terre de décembre 1988, il y aura bientôt 30 ans, aux côtés des sinistrés pour récolter des fonds et participer à la reconstruction du pays. Plus récemment, Charles Aznavour était présent aux côtés de Nicolas Sarkozy à Yerevan en 2011, et puis surtout en 2015 avec François Hollande pour les cérémonies du centenaire en hommage aux victimes, bien sûr, du génocide arménien. Alors il ne fait guère de doute que son image marquera, malgré l'absence sur scène, le sommet de la francophonie ici les 11 et 12 octobre prochains.
Claude Bruyot en direct ce matin de Yerevan en Arménie. Merci à vous, merci à Pierre Quintard pour les moyens techniques. À noter encore, une autopsie du corps de Charles Aznavour sera pratiquée ce matin à Nîmes pour déterminer les causes exactes de son décès. C'est à son domicile des Alpilles, dans le sud-est de la France, que Charles Aznavour s'est éteint, je le rappelle, hier à l'âge de 94 ans.
Vous écoutez les matins de France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu quand le chef de l'État en refuse la démission d'un de ses ministres.
Emmanuel Macron, décidément maître des horloges, alors que Gérard Collomb souhaitait hier après-midi démissionner de son poste de ministre de l'Intérieur pour désamorcer les critiques contre lui, contre sa candidature annoncée pour la mairie de Lyon en 2020. Emmanuel Macron a refusé dans la soirée cette démission et il a demandé à Gérard Collomb de rester pleinement mobilisé sur sa mission pour la sécurité des Français. Est-ce une façon pour le chef de l'État de renouveler sa confiance à son ministre ? Pas vraiment, Cyril Gradiani.
Entre les deux hommes, il se murmure que les relations sont devenues glaciales, voire quasi inexistantes. Il y a 15 jours, Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié d'être mis devant le fait accompli par son ministre, qui avait annoncé envisager de quitter le gouvernement après les européennes. En petit comité, le chef de l'État furieux avait confié à ses proches qu'il ne fallait pas laisser croire que c'est Collomb qui fixait les règles. Cette fois, en refusant sa démission, Emmanuel Macron a envoyé un message à son ministre « Tu partiras quand je le déciderai », résume un intime du président. Surtout après la démission surprise de Nicolas Hulot, le départ assumé d'un autre poids lourd du gouvernement, ça aurait pu donner l'impression que lui aussi quittait le Titanic, lance un conseiller de l'ombre. Pour autant, ce refus ne va pas calmer la grogne d'une partie de la majorité qui préférerait voir partir Collomb. Un ténor de La République En Marche s'inquiète. Tout ça ne va pas tenir très longtemps. Un autre qui souffle à l'oreille du président renchérit. Emmanuel Macron fait une erreur. Il aurait dû accepter sa démission et en profiter pour tout remanier, pour se redonner enfin, poursuit-il, un second souffle.
Et lui attise aujourd'hui le feu des critiques. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, estime que Gérard Collomb doit absolument quitter le gouvernement.
Je crois que M. Collomb, ça fait bien longtemps qu'en réalité, il n'assume plus ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Est-il d'ailleurs jamais entré dans le costume ? On peut se poser la question. Les résultats ne sont pas à la hauteur. Il est obsédé par l'idée de repartir à Lyon. Je crois qu'effectivement, M. Collomb devrait reprendre sa liberté, puisque ça fait déjà plusieurs semaines que nous n'avons plus de ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, l'Élysée colmate les brèches. Tout ça n'est pas très sérieux et qu'on est en train de s'apercevoir que nous sommes gouvernés par des gens pour lesquels l'intérêt général protéger les Français n'est pas leur priorité.
Le député Sébastien Chenu du Rassemblement National, joint par Mathilde Dehimy. Les enfants sont plus exposés à la pollution de l'air que les adultes. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Alliance européenne pour la santé publique, publiée aujourd'hui. Une exposition accrue donc pour les enfants. C'est vrai en France, mais aussi en Allemagne. Les enfants sont plus sensibles au taux d'oxyde d'azote, un gaz issu de moteurs diesel qu'ils inhalent plus fréquemment à hauteur de pots d'échappement. Et c'est particulièrement vrai pour l'Allemagne dans les villes berceaux de l'industrie automobile comme Munich et Stuttgart, ainsi que Berlin ou encore Hambourg. En Allemagne encore, le gouvernement va présenter aujourd'hui l'accord trouvé avec les constructeurs automobiles pour remplacer les vieux diesels trop polluants. Au terme d'une réunion cette nuit à Berlin, les responsables sociaux-démocrates du SPD et les conservateurs de la CDU et de la CSU ont annoncé un concept pour l'air propre et la sécurisation de la mobilité dans les villes allemandes. Détail attendu donc dans la journée. De nouvelles règles en matière d'immigration après le Brexit, c'est ce que la première ministre britannique a annoncé hier, avec la fin une bonne fois pour toutes de la libre circulation des citoyens européens au Royaume-Uni, selon les mots du 10 Downing Street. Priorité également donnée aux travailleurs qualifiés qui souhaiteraient s'installer outre-Manche. Ils devront attester d'un certain niveau de revenus pour garantir qu'ils n'occupent pas des emplois qui pourraient être pourvus par des Britanniques. Pour parler de ces nouvelles règles, direction Londres avec vous Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Ces annonces étaient attendues, mais Theresa May semble s'être précipitée pour les faire, alors que Boris Johnson, son ancien ministre et actuel rival au sein du Parti conservateur, doit prendre la parole aujourd'hui au Congrès des Tories à Birmingham.
Oui, à l'origine, c'est Savid Javid, le ministre de l'Intérieur, qui était censé aborder le sujet pendant son discours aujourd'hui devant le Congrès conservateur. Mais il y a eu des fuites. Le nouveau plan d'encadrement de l'immigration, déjà évoqué par le gouvernement mi-septembre, a été mise en ligne sur le site du Sun hier soir. En voyant les titres des tabloïds, l'équipe de Theresa May a rédigé à la hâte un communiqué de presse pour tenter de reprendre la main, car cette idée d'immigration choisie n'est pas nouvelle. Le Parti conservateur plaide depuis le référendum sur le Brexit pour une sélection des travailleurs étrangers en fonction de leurs compétences. Les propositions ont été dévoilées mi-septembre, mais le sujet est crucial pour la Première ministre. Theresa May, contestée par les militants qui l'accusent d'être trop conciliante avec Bruxelles, doit à tout prix prix reprendre la main si elle veut rester à Downing Street. Elle joue sa survie face à Boris Johnson. L'ancien ministre des Affaires étrangères va prononcer un grand discours en début d'après-midi. Il tire à boulets rouges sur le gouvernement et ses annonces de Theresa May au milieu de la nuit ne sont qu'un bouclier fragile face à la contestation qui monte au sein de l'électorat conservateur proche de l'extrême droite.
Et Boris Johnson représente-t-il une véritable menace pour Theresa May? Les électeurs de droite partisans d'un Brexit dur le verraient bien, en tout cas, remplacer la première ministre. C'est ce qu'ils vous ont confié, Antoine Gignot, au Congrès conservateur à Birmingham.
Pour plus d'un tiers des militants, il est l'homme providentiel, capable de sortir le pays de l'ornière, capable de relancer les négociations avec Bruxelles, explique Rachel Tingle, économiste et membre du Parti conservateur.
Boris Johnson a dit qu'on pouvait peut-être utiliser la période de transition de 2 ans avec l'Union européenne pour conclure un meilleur accord de libre-échange, et c'est ça qu'on voudrait. Il faut quelqu'un avec des convictions plus claires que Theresa May.
Car la plus grande force de Boris Johnson, c'est son image, sa mèche incontrôlable, son air de trublion déterminé, soigneusement élaboré ces derniers mois avec plusieurs conseillers comme Steve Bannon qui a contribué à faire élire Donald Trump. La recette fonctionne, explique Robert Higginson, ancien candidat conservateur aux élections locales.
On a besoin de quelqu'un qui sache piloter le bateau. Theresa May, on lui a donné sa chance, on l'a accueillie, on lui a donné une occasion de montrer ce qu'elle savait faire. Et tout ce qu'on a vu, c'est qu'elle n'est malheureusement pas capable de naviguer.
Pourtant, même plébiscité par les électeurs, Boris Johnson va devoir convaincre les députés. Il manque cruellement d'alliés. Près d'une dizaine de conservateurs menacent même de quitter le parti s'il prend le pouvoir.
Antoine Gignot au Royaume-Uni pour France Culture. L'immigration qui permet à Boris Johnson d'avoir le vent en poupe outre-Manche. L'immigration encore qui a porté pour la première fois au pouvoir la coalition Avenir Québec, un parti nationaliste non indépendantiste qui souhaite réduire la taille de l'État et l'immigration au Québec, tournant ainsi la page de près de 15 ans de gouvernement libéral quasi ininterrompu. Un coup dur pour la coalition de Justin Trudeau au Canada. Le temps de ce mardi 2 octobre, nuageux au nord de la Loire, plus lumineux au sud. Les températures sont comprises ce matin entre 1 et 11 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 15 degrés dans l'est de l'Hexagone. Comptez de 15 à 21 degrés partout ailleurs, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, on va évoquer les causes et les manières de se protéger des tsunamis.